Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant, Paraquad. Au programme, entrevue avec Mouloud Boukala. Et quelle est la place des personnes en situation de handicap sur nos écrans? Bonne écoute.
Entrevue avec Mouloud Boukala, un texte de Virginie Archambault, paru dans le numéro 157, été 2022, du magazine Paraquad. Mouloud Boukala est anthropologue et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et les auto-représentations. Ses recherches portent sur l'étude des situations de handicap et d'auto-représentation du handicap au cinéma, à la télévision et en bande dessinée. Il travaille également sur les modalités de la marche et de la négociation avec l'espace urbain à l'aide d'outils numériques. Professeur titulaire à l'Université du Québec à Montréal et membre régulier du Centre de recherche culture, arts, société, CELAT, il enseigne, entre autres, représentation médiatique du handicap et de la sourditude, approche anthropologique des médias et droit, citoyenneté et handicap, stratégie d'émancipation. Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre parcours professionnel en tant que chercheur? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'étude des situations de handicap et aux auto-représentations des handicaps dans les médias? J'ai une double formation en anthropologie et en études cinématographiques. Depuis le début des années 2000, je me suis intéressée à la manière dont les médias façonnent les perceptions et les comportements. Tout en complétant une thèse en anthropologie, Université Lyon 2, j'ai développé une expertise sur une problématique alors peu investie, celle des images des personnes handicapées. Ma rencontre avec Charles Gardou, spécialiste français reconnu du handicap et auteur d'un ouvrage récent et important, « La fragilité de source » 2022, a été décisive. Nous avons coordonné un numéro de Reliance. Revue des situations de handicap, de l'éducation et des sociétés consacrée à la vulnérabilité en images, 2007, dans lequel nous mettons en relief les potentialités inclusives, politiques et émancipatrices des images de la vulnérabilité. Quels sont les discours populaires véhiculés socialement et dans les médias concernant la représentation des personnes en situation de handicap? Les discours populaires véhiculés socialement et dans les médias pour représenter les personnes en situation de handicap oscillent souvent entre une vision négative, misérabiliste et très condescendante du handicap, où la pitié et le pathos jouent à plein. Le handicap est dès lors associé au malheur, à des problèmes, à de la souffrance, à de la dépendance et à de la passivité. Les personnes en situation de handicap sont envisagées comme des êtres de besoin, des charges pour les proches, la famille, la société. Elles sont souvent source de conflits et ne participent pas au vivre ensemble. À l'inverse, on rencontre une approche exagérément positive du handicap où prime l'admiration. La personne en situation de handicap est, dans ses gestes de tous les jours et dans son quotidien, héroïsée et spectacularisée. Ces représentations sociales flirte souvent avec ce que Stella Young, comédienne et activiste, nomme l'inspiration porn dans sa très populaire vidéo « I'm not your inspiration, thank you very much ». Dans les deux cas, ces discours populaires manquent de nuances et véhiculent souvent des stéréotypes. Ils peuvent également être porteurs de violence envers les sujets représentés et constituer une forme d'oppression. Ils ont des conséquences significatives en termes d'identification, d'estime, de confiance en soi et de construction identitaire, dans la mesure où les premières personnes concernées et leur entourage peuvent les intérioriser. Les artistes en situation de handicap sont-ils sous-représentés à la télévision et dans les milieux des arts en général au Canada, selon vous? Que révèlent les résultats de votre étude sur le sujet? En 2018, avec une équipe composée de chercheuses et chercheurs, d'artistes en situation de handicap et ou sourdes et sourds, et de personnes alliées issues de divers milieux universitaires et de pratiques, nous avons réalisé une étude intitulée « Les pratiques artistiques des personnes sourdes et handicapées au Canada » dans le cadre d'un contrat avec le Conseil des arts du Canada. Il est apparu que les artistes en situation de handicap et ou sourdes et sourds sont doublement désavantagés, à la fois par rapport aux artistes capacités et entendants-entendantes, et par rapport aux personnes handicapées et sourdes qui occupent un autre type d'emploi. Les revenus des artistes, dont les activités sont souvent limitées, sont 44 % moins élevés que ceux de la population active totale qui présente la même fréquence de limitation. Il est également ressorti que ces artistes ne se sentent pas inclus dans les représentations culturelles non handicapées ou entendantes actuelles. Ils insistent pour que rien ne soit fait en leur nom sans qu'ils soient activement impliqués. Plusieurs ont souligné le fait que la stéréotypie des représentations tient au fait que les rôles sont réduits à la condition handicapée ou sourde, sans égard à la complexité du personnage. Vous enseignez au cours de deuxième cycle à l'UQAM, intitulé « Représentation médiatique du handicap et de la sourditude », quels sont les objectifs et les particularités de ce cours? Ce cours s'inscrit au sein du programme cours de deuxième cycle « Handicap et sourditude, droit et citoyenneté » que j'ai contribué à créer avec des collègues de l'UQAM. Il s'agit du premier programme d'enseignement en études critiques sur le handicap au Québec. Dans le cadre du cours « Représentation médiatique du handicap et de la sourditude », nous analysons les représentations sociales du handicap et de la sourditude au travers de diverses productions médiatiques québécoises et internationales, cinéma, bande dessinée, séries télévisuelles, photographies, etc. À partir d'extraits de ces productions médiatiques, nous retraçons l'évolution historique et anthropologique des rapports au handicap et à la sourditude. C'est l'occasion d'interroger les interactions, les collaborations et les rapports de pouvoir entre les personnes handicapées sourdes et capacitées entendantes. Une des particularités du cours est que les étudiantes et étudiants ressortent outillés pour analyser, déconstruire et critiquer des discours populaires et récurrents sur les personnes en situation de handicap. Le cours s'adresse aussi bien aux professionnels de la santé et des services sociaux qu'aux interprètes en langue des signes québécoise, LSQ, enseignantes et enseignants en adaptation scolaire, conseillères et conseillers pédagogiques ou encore aux travailleuses et travailleurs du domaine des arts et de la culture. Les inscriptions sont présentement ouvertes. N'hésitez pas à nous rejoindre au site Internet suivant https://cours.ucam.ca/cours.FCM7702. Vous écoutez Entrevue avec Mouloud Boukala, un texte de Virginie Archambault, paru dans le numéro 157, été 2022, du magazine Paraquad. En quelle année et dans quel contexte la chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et les autoreprésentations a-t-elle été créée? Quelle est sa mission principale? La chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et les autoreprésentations a officiellement été créée en décembre 2019, quelques mois avant la pandémie. Elle a pris place dans un contexte marqué par l'affirmation de singularité et de sensibilité et par une multiplication de représentations du handicap dans les différents médias, tant nationaux que locaux. La chaire de recherche poursuit trois objectifs. 1. Identifier les groupes vivant avec un ou des handicaps majoritairement représentés dans les médias canadiens, 1980-2020. 2. Mieux comprendre les liens entre les productions médiatiques contemporaines du handicap, 2000-2020, et leurs usages par les personnes en situation de handicap. 3. Améliorer dans le temps la présence et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les contenus médiatiques grâce à des politiques médiatiques inclusives. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les principaux collaborateurs et collaboratrices de cette chaire de recherche et sur leurs apports? Tous les projets menés au sein de la chaire sont réalisés collectivement et sont fondés sur les principes d'équité, de diversité et d'inclusion. Nos activités réunissent des personnes aux capacités diverses, avec des expertises complémentaires, et reposent sur la co-construction des savoirs. Nos collaboratrices et collaborateurs et membres du comité aviseur sont des membres d'associations se consacrant à la promotion et à la défense des droits des personnes handicapées, des conseillères et conseillers EDI, équité, diversité et inclusion, des chercheuses et chercheurs et des étudiantes et étudiants. Nous travaillons vraiment dans une perspective collaborative, avec, par et pour les acteurs s'auto-identifiant comme ayant un ou des handicaps. La prise en considération et la reconnaissance de leur point de vue expert dans la production de connaissances sont primordiales. Y aurait-il des projets de recherche futurs ou déjà en cours abordant certains aspects de la représentation des personnes handicapées dans les médias dont nous n'avons pas discuté aujourd'hui? Oui, nous sommes en train d'élaborer une base de données des productions médiatiques, films, séries télévisuelles, bandes dessinées, canadiennes, portant sur le handicap de 1980 à 2020. Nous avons commencé par le Québec et avons recensé 215 productions et réalisé 507 fiches de personnages en situation de handicap. C'est un travail de longue haleine et nous sommes à la recherche de partenaires. L'objectif est de déterminer les caractéristiques de ces auto-représentations et les thématiques abordées des années 1980 à 2020 en créant une fiche analytique pour chaque production et pour chaque personnage. La base de données sera publique et servira aux organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap, aux journalistes, au milieu des industries créatives, production, réalisation, distribution, aux chercheuses et chercheurs et aux étudiantes et étudiants. C'était Entrevue avec Mouloud Boukala, un texte de Virginie Archambault, paru dans le numéro 157, été 2022, du magazine Paraquad. Quelle est la place des personnes en situation de handicap sur nos écrans? Un texte de Nadège Fortier, paru dans le numéro 157, été 2022, du magazine Paraquad. Selon une étude du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval, les Québécois passent en moyenne 28 heures par semaine devant le petit écran. Les téléspectateurs regardent leurs personnages favoris évoluer, s'émeuvent de leurs aventures et rient de leurs péripéties. Ils s'identifient à ceux qui leur ressemblent physiquement, mais aussi à ceux qui partagent les mêmes valeurs tout en étant différents. La télévision est donc un merveilleux moteur de transformation pour une société plus inclusive. Elle peut servir à défaire des stéréotypes ou à montrer des réalités qui nous sont méconnues. Encore faut-il qu'elle les montre. Selon les données statistiques de l'Office des personnes handicapées du Québec, dévoilées en 2017, 16,1% de la population québécoise vit avec une incapacité ou un handicap. On ne peut que se rendre compte que ces chiffres ne se reflètent pas à la télévision, où moins de 1% de personnages présentent un handicap. Une enquête publiée en 2016 par la Ruderman Family Foundation aux États-Unis a relevé que 95% de ces personnages sont en fait interprétés par des acteurs ne présentant pas de limitations. C'est comme si seulement 5% des rôles féminins étaient joués par des femmes. Nous pourrions nous réjouir de voir une amélioration sur l'époque de Shakespeare où les femmes ne pouvaient pas fouler les planches. Nous n'en serions pas moins loin d'une représentation juste. À noter que les chiffres sont indisponibles pour le Québec. Pourquoi est-ce que nous voyons si peu d'acteurs en situation de handicap sur nos écrans? Les premières raisons sont pratiques. Au Québec, où les séries et films sont dotés de budgets restreints, les tournages se déroulent très rapidement. Les journées commencent tôt et finissent tard. Les emplacements de tournage sont sélectionnés afin de réduire les déplacements de l'équipe. Ajouter une contrainte, telle que l'accessibilité universelle compliquerait largement le travail des directeurs de lieux de tournage et augmenterait de façon significative la part du budget qui devrait y être accordé. Ensuite, certains rôles nécessitent qu'un acteur qui interprète une personne en situation de handicap puisse aussi marcher. Par exemple, on a reproché au film A Theory of Everything, la théorie de l'univers, d'avoir donné le rôle de Stephen Hawking à Eddie Redmayne, qui, contrairement au physicien anglais qui l'interprète, ne présente pas de limitations. Or, Hawking était atteint de sclérose latérale amyotrophique, SLA, une maladie dégénérative qui affaiblit les muscles au fil des ans. Il était donc plus facile de confier le rôle à un acteur capable de jouer tous les stades de la maladie. Ajoutons que les téléspectateurs ne sont pas habitués à voir des gens parler et bouger différemment. Cela crée un malaise. Certains directeurs de casting préfèrent donc engager des acteurs qui sont en pleine possession de leur corps. Ils joueront donc un entre-deux, un handicap chorégraphié qui passe bien à l'écran, mais qui n'est pas représentatif et qui ne permet malheureusement pas à la population de passer outre son inconfort. Il est aussi à noter qu'il y a peu de comédiens en situation de handicap, ce qui complexifie encore une fois la tâche des équipes de casting. Lorsqu'on affiche un poste pour un personnage qui présente une limitation, cette dernière sera listée dans les caractéristiques du rôle, Mais l'appel d'audition ne sera pas envoyé exclusivement aux acteurs vivant avec ce handicap. Nous sommes en face d'une situation cyclique. Il y a peu d'acteurs en situation de handicap parce qu'on en engage peu. Pourtant, leur présence en plus grand nombre permettrait une plus grande authenticité. Avez-vous déjà remarqué que les personnages en fauteuil roulant à l'écran semblent tous posséder des équipements d'hôpital? Ou que leur handicap semble l'aspect le plus important de leur vie, comme si leur travail ou leurs relations sociales étaient tous secondaires? Évidemment, un handicap modèle la façon de voir la vie, tout comme le fait d'appartenir à une minorité ethnique ou sexuelle. S'il est possible de s'identifier à un personnage qui appartient à un autre groupe, on ne peut pas acquérir l'expérience de vie qui rendrait l'interprétation authentique et nuancée. N'engager que des acteurs qui ne présentent pas de limitations, même bien intentionnées, a pour conséquence la propagation de stéréotypes. Certaines productions fournissent néanmoins des efforts en termes d'inclusivité. Par exemple, après avoir essuyé des critiques pour avoir donné le rôle-titre à un acteur neurotypique, la série Netflix Atypical, atypique, n'a engagé que des acteurs autistes pour jouer les membres du groupe de soutien de Sam. Plusieurs séries de Netflix ont aussi distribué des rôles à des acteurs en situation de handicap sans que ça définisse leur personnage. On peut penser à Dustin, interprété par Gaten Matarazzo, Stranger Things, qui présente une condition génétique qui affecte ses dents et ses os, mais qui est un adolescent comme les autres, outre le fait qu'il évolue dans un monde paranormal. Isaac, dans Sex Education, éducation sexuelle, est un adolescent ironique et blagueur. S'il est en fauteuil, c'est parce que l'acteur George Robinson a subi un accident de rugby lorsqu'il était adolescent. La petite Esperanza, dans la série Raising Dion, Comment élever un super-héros, a aussi une maladie des os et se déplace en fauteuil roulant. C'est cependant à sa bonne humeur pétillante que Sammy Haney doit ce rôle, et non à son handicap. On ne peut qu'espérer que ces initiatives permettent à un plus grand nombre d'acteurs en situation de handicap de travailler et à plus de téléspectateurs de comprendre cette réalité. Le saviez-vous? La première personne sourde à gagner un Oscar est Marley Matlin pour le film Les Enfants du Silence en 1987. Il a fallu 35 ans pour qu'un second acteur sourd, Troy Kotsur, gagne ce prix pour le film Coda. Qui jouait son épouse? Marley Matlin. La première représentation d'un personnage en situation de handicap date des balbutiements du cinéma avec Le faux cul de Jatte des Frères Lumière en 1897. On y voyait un mendiant feignant un handicap, éventuellement démasqué par la police. Pas besoin de ses mains pour gagner un Oscar. En 1947, Harold Russell a gagné le prix pour le meilleur acteur de soutien dans le film « The Best Years of Our Lives ». Tout comme son personnage, Russell était un vétéran qui avait perdu ses deux mains en manipulant des explosifs. Le festival Hip Obsession à Nantes, en France, s'est engagé à rendre tous ces événements accessibles au plus grand nombre. Ainsi, on y prête des gilets haptiques et on traduit les spectacles en langue des signes pour les personnes sourdes. L'audio-description des spectacles est disponible pour les personnes en situation de handicap visuel et des espaces sont dédiés aux personnes à mobilité réduite. On s'assure aussi que tous les lieux des spectacles soient accessibles. c'était « Quelle est la place des personnes en situation de handicap sur nos écrans? » un texte de Nadège Fortier, paru dans le numéro 157, été 2022, du magazine Paraquad.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.